Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur eurosport.fr et rugbyrama.fr. Arrêt Buffet, spécial 15 de France avant le choc samedi face à l'Afrique du Sud et on en parle avec celui qui n'a jamais perdu contre les Springboks. Et oui, 3 matchs, 3 victoires, sacrée statistique. Notre légende Imanol Arinordo qui est là. Salut Imanol.
Merci Olivier, bonjour à tous.
C'est pas commun ça, tu les as d'ailleurs notamment battus à Marseille je crois.
Ouais, à Marseille, c'était certainement le meilleur souvenir que j'ai contre les Boks. La première fois que je l'ai joué, je pense que j'avais 22 ans, et dans l'ancien Vélodrome, donc avec une ambiance de feu et de fou, donc c'était vraiment génial, ouais. Et en plus, c'était la grosse équipe aussi à l'époque.
Ouais, on espère que ça donnera des idées à nos bleus, tu nous raconteras d'autres souvenirs de tes matchs avec les Springboks dans quelques instants. Eux, leurs analyses sont aussi tranchantes qu'un crochet de Colby, aussi saignantes qu'un plaquage d'Etzebeth, c'est dire nos confrères du Midi Olympique, Arnaud Beurdelet et Pierre Laurangou sont là, salut les gars.
Salut messieurs.
Bonjour à tous.
On va parler avec vous de la composition du 15 de France que vient de communiquer Fabien Galthié. Êtes-vous d'accord avec les choix du sélectionneur? La performance en demi-teinte face à l'Australie est-elle inquiétante au moment d'affronter les colosses sud-africains? Voilà quelques-unes des questions que nous allons nous poser, sans oublier le cas Antoine Dupont, peut-être moins rayonnant samedi dernier et dont la réaction est attendue face aux champions du monde. Arrêt Buffet, c'est parti. Messieurs, la composition du 15 de France est tombée ce jeudi midi. Sans surprise, Fabien Galthié a reconduit l'équipe qui a battu difficilement l'Australie samedi dernier. Il y avait juste une interrogation sur la présence ou non de Jonathan Danty, le centre rochelais devenu papa cette semaine. Bah, il sera là finalement, on le félicite d'ailleurs. Les seuls changements, ils auront lieu sur le banc avec la présence pour la première fois de Reda Wardi, le pilier de La Rochelle, et Bastien Chalureau, le deuxième ligne de Montpellier. Imanol, ton avis sur cette composition, est-ce que tu es d'accord avec le choix du staff de reconduire les mêmes hommes ou est-ce que tu aurais aimé un petit peu plus de changements?
Non, moi je suis plutôt d'accord avec le 15 aligné. On ne change pas une équipe qui gagne. C'était le premier match aussi de la tournée. Il fallait reprendre les automatismes. Donc tout n'a pas été parfait, mais je crois que c'est important en termes d'expérience collective de se baser sur le même 15 de départ. Et puis voilà, il y a des finisseurs aussi qui ont bien fait le job la semaine dernière puisqu'ils ont réussi à remporter le match, mais je crois que c'était un ensemble. Ça va leur permettre cette semaine aussi de s'entraîner un peu plus ensemble, d'avoir un peu plus d'automatisme, d'avoir un peu plus de confiance aussi. C'est important d'avoir gagné le week-end dernier. Ils ont eu chaud aux fesses, ils le savent. Donc, ils savent qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre et que ça va être plus compliqué ce week-end, qu'il va falloir hausser le curseur. Ils ont été certainement surpris aussi par le niveau des Australiens qu'on annonçait vraiment en deçà. Et on a vu une belle équipe d'Australie. J'étais au match samedi et les Australiens ont fait plaisir. Ils ont fait plus que rivaliser. Ils auraient peut-être même mérité de l'emporter. Donc, c'était un match serré, mais les Français sont restés calmes, comme ils savent le faire dans leur match et habitués à jouer tous les scénarios possibles. Mais ils savaient qu'ils pouvaient éventuellement jouer la gagne dans les 2-3 dernières minutes. C'est ce qui s'est passé. Donc, voilà. Et que ça continue, hein, qu'ils gagnent tous les matchs d'un point, on sera les plus heureux.
Et vous, messieurs, vous validez cette composition, ce choix de reconduire les mêmes hommes? Arnaud, Pierre-Laurent.
Moi, je suis partagé parce que effectivement, je rejoins Imanol sur le fait que la stabilité, c'est important. Trop souvent, par le passé, nous, les premiers, les journalistes, on a critiqué les incessants changements qu'il pouvait y avoir. Je me souviens notamment d'avoir fait un certain nombre de papiers sur les rotations qui pouvaient exister à la charnière. Donc, la stabilité, c'est très bien. Et là-dessus, je rejoins parfaitement Galthié et son staff. Pour moi, il n'y avait pas qu'une seule interrogation. Pour moi, Jonathan Danty, c'était presque même pas une interrogation, sachant que la naissance de son fils est intervenue tôt dans la semaine. À la lueur de la performance qu'il a produit samedi contre l'Australie, même si ce n'est pas son meilleur match avec les Bleus, il a quand même apporté certaines garanties. Pour moi, l'interrogation, elle était plus sur comment gérer les difficultés rencontrées, notamment sur tout ce qui était zone de combat au sol, les zones de ruck et les ballons portés sur lesquels on s'est montré assez inefficace. Et pour ça, il faut aller creuser un peu sur ce qui s'est passé, notamment l'an dernier. J'ai souvenir de 4 ballons portés où Peato Movaka, notamment, avait inscrit 4 essais. quatre ballons portés, drivés, dirigés par Paul Willemse à ce moment-là, qui est non seulement une poutre, mais qui est un formidable pilote, j'ai envie de dire, de ballons portés. Et il a peut-être manqué samedi dernier un peu de densité physique sur ses phases de jeu contre l'Australie. On sait que face à l'Afrique du Sud, ça risque encore de monter d'un cran en termes de d'épaisseur, on va dire. Et c'est vrai que cette deuxième ligne, Wauke Flamand, qui donne énormément de garanties sur notamment la conquête aérienne, qui donne beaucoup de garanties dans la capacité de déplacement, qui donne de la garantie sur la qualité technique de cette équipe de France, elle perd un petit peu en puissance.
C'est Fabien pour ça que tu as posé la question en conférence de presse à Fabien Galthié, d'ailleurs.
Hein. Exactement.
Tu as demandé si la présence de Chalureau au Taofi Fenua, ce n'était pas pour ça, pour compenser finalement le déficit supposé de puissance des deuxièmes lignes titulaires.
C'est une première pour Fabien Galthié de mettre deux deuxièmes lignes quasi similaires. Et je pense qu'il a conscience, Fabien, qu'il prend un petit risque en conservant cette même équipe. Ce même 15 de départ en tout cas, et c'est pour ça qu'il a mis ces deux poutres, ces deux monstres sur le banc des finisseurs, parce que il l'a dit, ils ont imaginé tout un tas de scénarios. Il y en a qui vont probablement bien se passer, puis d'autres peut-être un peu moins, et que ces deux-là peuvent être amenés à apporter davantage de densité si toutefois on se retrouve encore à être contré dans les zones de combat ou sur les ballons portés.
Pierre-Laurent, je te vois faire la moue un peu.
Oui, sur le profil de Cameron Wauke et Thibaut Flamand, ce n'est pas tout à fait les mêmes joueurs. Il y en a quand même un qui se veut un peu plus aérien que l'autre, et Thibaut Flamand me paraît en ce moment plus complet. Bon, ce n'est pas là-dessus que je veux dire, c'était une volonté du staff. Si on revient d'abord sur le zéro changement du 15 de départ, c'était une volonté du staff. Il avait découpé cette séquence en deux parties. Australie, Afrique du Sud, puis Japon, on a vu quelques indiscrétions, le fait que l'Australie soit une sorte de préparation à balles réelles de l'Afrique du Sud. Donc à partir du moment, et Emmanuel l'a très bien dit, on ne change pas, voilà, c'est une lapalissade sportive, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Globalement, les joueurs ont donné satisfaction, ceux qui revenaient comme Romain Tamak et Cyril Bailly ont pu obtenir du temps de jeu et seront un peu plus dans le rythme par rapport à l'Afrique du Sud. C'est le gros moment, l'événement de cet automne au niveau international, ce France-Afrique du Sud. C'est aussi, comme on titrait en page 2 dans le journal de ce soir en numérique, et tout ça, c'est, on est à la quête de l'autre grand chelem, parce que c'est la dernière équipe que Fabien Galthié n'a pas battue. Autrement, si par bonheur on y arrive samedi soir, eh ben, on aura battu tout le monde à un an de la Coupe du Monde.
Mais pour vous, la question de la titularisation d'un Mathieu Jalibert, par exemple, ne s'est pas posée après le match, on va dire, en demi-teinte de Romain Ntamack ?
Non, parce que Arnaud, tu as bien répondu. Trop longtemps au sein du 15 de France. Et c'est vrai, Arnaud avait raison, ça venait de nous, les journalistes, et notamment du temps du premier mandat de Bernard Laporte et des débuts d'Imanol en équipe de France. Dès qu'un 10 était un peu en demi-temps, des vents le changeaient. Et puis, avec l'assentiment de la presse. C'est vrai que. Et on se disait, les Britanniques, eux, ils ne changent pas leur ouvreur et puis ça gagne. J'ai envie de te dire, Olivier, regarde l'Irlande, qui est actuellement numéro 1 mondial. Jonathan Sexton, il peut rater son match. Je vais même plus loin, il peut faire des commotions cérébrales. Le week-end d'après, il est sur le terrain.
Ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour lui, d'ailleurs.
C'est vrai.
Ni pour l'image du rugby.
Ce qui est certain, messieurs, c'est qu'il faudra montrer autre chose contre les champions du monde, parce qu'on l'a vu, hein, contre les Australiens, les Bleus se sont montrés un peu brouillons, fébriles, maladroits. Est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter avant ce choc à Marseille, Emmanuel ? Est-ce que ce n'est pas inquiétant ce que l'on a produit le week-end dernier ?
Moi, j'ai regretté un peu le manque d'adaptation face aux problèmes que nous ont posés les Australiens. J'ai cru comprendre que les Français n'étaient pas prêts à ce qu'ils jouent qui joue autant au pied. Je pense qu'ils n'étaient pas prêts non plus à ce que les Australiens fassent autant la guerre. On a quand même connu pas mal de soucis, notamment sur les ballons portés, où on s'est fait contrer, on a même reculé. Dans les zones de ruck aussi, où Antoine Dupont a été mis sous pression. J'aurais aimé voir les Français un peu plus porter le ballon. Alors, c'était certainement pas le plan de jeu, mais on a vu que dès qu'ils tenaient un peu le ballon et qu'ils écartaient les ballons, ils mettaient les Australiens quand même à la peine. Et j'ai trouvé qu'on a laissé un peu trop la main aux Australiens. Donc, Il va falloir faire attention pour samedi, parce que samedi, ça va monter plus que d'un cran, parce que les Sud-Africains, ils attendent ce match depuis un petit moment. Tous les grands joueurs de cette équipe annoncent vouloir être au niveau, donc ils craignent les Français. Donc, il va y avoir un sacré combat. Devant, c'est très, très, très solide, les Sud-Africains. Et Siya Kolisi disait la semaine dernière que finalement, ils se ressemblent un peu sur les profils de l'équipe de France et l'équipe de sud-africaine. Donc, il va y avoir, c'est un gros test. Hein. Je pense que c'est vraiment un gros test, même pour les Sud-Africains, un an de la Coupe du Monde. Vraiment se tester. Donc moi, j'attends de voir un peu notre réaction quand on a le ballon. Voilà, être un peu plus tranchant, tenir un peu plus longtemps le ballon. Après, sur l'état d'esprit, bon, c'est vrai qu'on est mal habitué. On est sur 11 victoires consécutives. On attend toujours plus, c'est normal. L'état d'esprit, quand même, il était présent, il était là. Les joueurs, ils n'ont pas lâché. On a certainement gagné le match aussi, justement, sur cet état d'esprit, à aller gratter des ballons importants dans les zones de contest. Hein. Il y a eu pas mal de turnovers dans des moments chauds et ça nous a permis certainement de gagner ce match. Donc, parfois, il faut savoir gagner petitement, mais on ne se souvient que de la victoire, Olivier. Donc, j'espère que samedi, en tout cas, on aura un match plus beau à voir. Peut-être que ça sera aussi cadenassé, mais on aura la réponse rapidement.
L'Afrique est-ce que du c'est Sud, pas... juste Arnaud, excuse-moi pour être totalement précis, l'Afrique du Sud qui a perdu en Irlande hein, le week-end dernier de 3 points et qui a effectué 6 changements hein, pour affronter l'équipe de France, avec notamment le retour à la mêlée de Faf de Clercq, qui aura un beau duel avec Antoine Dupont, on en parlera un petit peu plus tard.
Je voulais rebondir sur les propos d'Imanol et lui poser la question, est-ce que ce n'est pas justement pour tenir un peu plus le ballon et peut-être déplacer un peu le centre des débats de samedi prochain, que Galtier a reconduit exactement la même équipe avec cette deuxième ligne qui a une capacité de déplacement peut-être plus importante que si on avait mis un peu plus de tonnage?
Bah, de toute façon, ça va être une des clés du match. Hein. L'Afrique du Sud, ils sont très, très denses quand même. Donc, si on ne donne pas un peu d'air au jeu, ça va être compliqué. Hein. On va jouer un mur, hein, parce qu'ils aiment ça en plus, ce défi physique, même s'ils ont changé leur profil de joueurs et la façon de jouer. Ils aiment quand ça cogne, ils aiment faire mal. Et si on fait du jeu comme contre l'Australie, c'était le plan aussi d'aller chercher beaucoup dans les zones autour des rucks et dans l'axe. Je trouve qu'on s'y est un peu trop entêté. Je pense qu'il y a des solutions sur l'extérieur. Contre l'Afrique du Sud, il y aura une toute autre stratégie, j'en suis sûr. Mais il faudra tenir le ballon, il faudra les faire courir, c'est sud-africain. Il faudra se donner des espaces, oui, parce que de toute façon, avec les joueurs qu'on a, notamment derrière, c'est dès qu'on arrive à donner un peu de volume au jeu et un peu d'espace aux joueurs, ben ça leur permet de faire des différences. On a vu Damien Penaud à la fin, voilà, je ne vais pas dire qu'il a un boulevard parce que l'essai, il n'y a pas grand monde qui l'aurait marqué, mais quand il touche le ballon, c'est vrai qu'il y a un vrai espace de libre pour lui et ça lui permet de travailler, de jouer ses 1 contre 1 et d'aller marquer. C'est magnifique. Mais ça a été chose que trop rare samedi dernier. Donc, il faudra renouveler ce genre de séquence contre l'Afrique du Sud si on veut espérer une victoire.
Ce qui est sûr, c'est que ce match contre l'Australie, c'est un avertissement. On sent que les équipes maintenant ont étudié le jeu de l'équipe de France. On l'a même entendu hein, là, dans les interviews des Sud-Africains. Le jeu français est décortiqué, analysé. On sent que les adversaires commencent à s'adapter. Je ne dis pas que le jeu de l'équipe de France est plus lisible, mais maintenant, on commence à comprendre comment essayer les contrer.
Oui, j'ai l'impression, Imanol avait raison, que en fait, les joueurs français ont peut-être trop ou très bien respecté le plan de jeu mis en place par Fabien Galtier et son staff, où on avait choisi un jeu de dépossession, ou pareil, avec est-ce que c'était une répétition pour se préparer au défi face au Springboks, d'insister peut-être un peu trop sur de jeu à une passe et puis du défi au prêt, et où on n'a pas franchi. J'ai souvenir que Winnie Antonio, notamment, pareil, est souvent tombé, comme disait Imanol, sur un mur. Je crois plus à ça qu'au fait qu'on ait été décortiqué. Alors, bien sûr, la vidéo, elle marche. Nous, on l'a fait fonctionner. Donc, nos adversaires, ils ne sont pas plus stupides. Hein. Moi, j'ai envie de croire au fait qu'il y avait… Rappelez-vous l'an passé, en novembre, où Fabien Galtier, il avait préparé ce match de la Nouvelle-Zélande. Alors, en plus, où il avait été bon, c'est que dans la communication au départ, il avait cherché à cacher ça par rapport aux deux premiers matchs. Mais aux deux premiers matchs, il avait fait, je ne sais pas vous rappeler, l'Argentine et la Géorgie à Bordeaux, des tests de jeu, des tests de poste où il y avait El Tamak et Jalibert qui avaient été associés, des choses qui ne marchaient pas. Et il en avait fait la synthèse pour la Nouvelle-Zélande et ça avait donné le match qu'on connaît. Et je reviens à mes premiers propos au départ, c'est qu'il a préparé, il sait que c'est la finale de cet automne. Et dans son esprit, l'Australie était une préparation à balles réelles. Donc peut-être que cette frustration qui est née en nous sur le manque de jeu, le manque de jeu extérieur, parce qu'on l'a vu, c'est vrai, Emmanuel citait l'exemple de Penaud avec cette passe super bien décalée de Jalibert qui lui donne de l'espace, et après Penaud fait une action que seul lui peut-être réaliser. Mais voilà, je crois à une autre équipe de France samedi, surtout qu'Arnaud, peut-être qu'il était concentré parce qu'il bossait, mais une des réponses que lui a fait Fabien Galthié à sa première question, il a dit on a envie de tirer les premiers.
Arnaud est très fort en conférence de presse, il est redoutable dans ses questions.
On a le sentiment vraiment que l'équipe de France va vouloir prendre le jeu à son compte, ce qui n'a pas forcément été le cas contre l'Australie. Après, là où je rejoins à 1000% Fabien Galthié, Et c'est vrai que c'est un paramètre que nous, on a parfois tendance à oublier, c'est que c'était le premier match de l'équipe de France, entre guillemets, premium, depuis le 21 mars 2022. C'est-à-dire quasiment 8 mois sans jouer, alors que l'Australie sort du Four Nations, qu'ils avaient déjà un match contre l'Écosse, et que ça, c'est… Enfin, je pourrais demander l'avis à Emmanuel, mais un premier match comme ça dans une tournée, c'est jamais très simple.
Oui, c'est ce que je disais, Arnaud, tout à fait en accord avec tes propos. Hein. C'est toujours très compliqué de rentrer dans une tournée comme ça. Voilà, même si le groupe a eu 15 jours pour préparer ce premier match, voilà, il faut se retrouver. Il y avait des absences, il manque aussi des tauliers. Il faut reprendre les repères collectifs, les automatismes, la cohésion. Donc, il y a pas mal de choses qui font que ce premier match fait toujours un peu peur. Voilà, on peut avoir toujours un peu de mal à rentrer dedans. Voilà, l'essentiel est là, ils ont gagné, et puis je pense que de toute façon ils avaient peut-être aussi la tête déjà à l'Afrique du Sud.
Je voulais te poser la question, Emmanuel, d'ailleurs, est-ce que dans la préparation c'est pas peut-être plus facile finalement de préparer ce match de l'Afrique du Sud, parce que ça a une première pour cette génération Galthié d'affronter les Sud-Africains, les champions du monde. Il peut y avoir une forme de crainte, parce que c'est vraiment un des plus gros tests que va livrer cette équipe. C'est peut-être le grand défi, le gros défi de l'équipe de Fabien Galthié, depuis que Fabien Galthié a pris les rênes de cette équipe.
Ils ont quand même passé quelques tests quand même convaincants déjà, les Français.
Sont les box, les champions du monde.
Voilà, pour eux, dans la continuité de leur progression et de ce chemin jusqu'à la Coupe du Monde, voilà, c'est certainement le match qu'ils attendaient. Les autres nations, ils ont déjà joué. C'est la seule nation que cette équipe n'a pas encore battue. Donc, outre le fait qu'ils vont les craindre, forcément, il y a aussi l'excitation. Et par le passé, quand même, cette équipe, elle a toujours bien réagi dans des moments de haute tension ou en tout cas de gros challenge. Elle a les joueurs ont plutôt haussé le curseur. Donc, je crois qu'ils en sont capables. Ils vont bien se préparer. Mais c'est sûr que ça va être génial. Enfin, pour eux, ça va être génial. Ils vont jouer en plus à Marseille. Le stade, il est fantastique. Il va y avoir une ambiance de fou. Je pense qu'ils vont vraiment prendre le meilleur pour préparer ce match. Et moi, je suis plus convaincu qu'ils vont se régaler, parce que c'est leur histoire et c'est le plus important d'abord de se régaler.
Tu te régales quand tu joues l'Afrique du Sud ?
Ouais, quand tu joues l'Afrique du Sud à Marseille et que tu gagnes, tu te régales. Après, tu sais que tu vas y laisser quelques plumes parce que ça cogne. Mais pour eux, c'est génial. Voilà, l'équipe de France, en plus championne du monde en titre, tout est réuni pour que ça soit le match de cette fin d'année. Comme le match, c'est même plus important que le match de l'année dernière face aux All Blacks, même si c'était les All Blacks et qu'ils étaient diminués. On ne va pas revenir dessus, c'était important quand même psychologiquement de les battre, parce que quand ils se recroiseront, et les Blacks le sauront.
On a l'impression que c'est un niveau au-dessus.
Que les Français sont quand même intraitables. Et pour les Sudaf aussi, c'est important. En plus, voilà, les Sud-Africains, ils apportent beaucoup d'importance au fait de marquer l'adversaire. Donc, il y a un vrai combat, un vrai bras de fer qui va s'engager samedi.
Petite donnée surprenante que nos jeunes journalistes ont relevée ce matin. Au moins sur le papier, au coup d'envoi, le paquet d'avant des Français sera plus lourd de 30 kilos que celui des Sudaf.
Ah oui ?
Oui, c'est, quand on m'a donné cette statistique, j'ai tiqué. Mais bon. Alors, Winnie Atonio n'est pas pour rien.
Ça, c'est fait. Winnie, si tu nous entends.
Non, mais on a besoin de franc-poids.
Hein. Non, mais justement, dans ces phases de combat, moi, j'ai pas entendu de réflexion par rapport à ça après le match face à l'Australie, mais moi, j'ai regretté. Alors, ça sert à rien de regretter les absences, mais je trouve qu'un garçon comme François Cross manque cruellement à cette équipe de France. Et sur un match, sur un rendez-vous tel qu'on s'y attend face à l'Afrique du Sud, je pense qu'un garçon comme Cross aurait été extrêmement précieux. Quoi. Mais bon, évidemment, ça sert à rien de parler des absents, donc j'aurais pu me. Vous épargnez cette réflexion.
Merci pour ton intervention. Bravo.
Est-ce qu'on peut parler du cas d'Antoine Dupont, messieurs ? Parce que ce n'est pas lui faire injure que de dire ça. Il n'a pas eu son influence habituelle le week-end dernier. Il a été harcelé par les Australiens. Il s'est montré parfois maladroit. Voilà, les équipes commencent à mettre en place des plans anti-Dupont. On le voit bien. On l'a vu avec White, hein, le demi de mêlée adverse. Comment vous l'avez trouvé, vous ? On peut dire qu'il a été décevant. Il se doit une réaction quand même ce week-end également.
Oui, mais tu l'as dit, il a été harcelé. Et comme disait Arnaud, il manquait François Cross. Et je pense qu'il a été moins bien protégé par ses avants. Et ceci explique peut-être cela, où on l'a trouvé un peu moins flamboyant, notamment derrière les rucks.
À l'image de l'équipe, il a été mis sous pression. J'ai en tête ce premier ruck là où il prend trois Australiens sur le dos. Il a pas dû comprendre ce qui se passait. Donc forcément, il a pris une pression terrible d'entrée. Il n'a pas eu toujours des ballons très propres, donc voilà, il a alterné le chaud et le froid, mais je crois qu'il a voulu rester dans son rôle. Il a fait un match quand même sobre, il n'a pas essayé de sauver la patrie tout seul, et ça c'est peut-être une marque aussi de son évolution. Peut-être que par le passé, il aurait, dans un match comme ça, il se serait peut-être un peu plus agacé, il aurait peut-être essayé de faire des différences tout seul, ce qu'il faisait avant, et là il a attendu que l'orage passe pour conduire son équipe à la victoire. Et je pense que là, il est en train d'évoluer aussi par rapport à son statut de capitaine. Bon, mais bien sûr, après, on attend toujours plus d'Antoine Dupont parce qu'il est capable de marquer un essai sur chaque action. Donc, mais il ne marquera pas un essai sur chaque action et sur chaque match. Donc, le plus important, c'est que l'équipe gagne.
Moi, ça me le rend encore plus sympathique, j'ai envie de dire, parce qu'à chaque fois, je vous épargne les superlatifs qu'on emploie pour parler de Dupont. Mais ça le rend humain, quoi. Voilà, il a le droit d'être un peu moins bon. Et j'ai presque envie de penser que c'est plutôt bon signe. Connaissant un peu la personnalité du bonhomme, je pense que s'il y en a bien un qui se remet en cause bien plus que tous les autres, c'est lui. Et il sait que voilà, il a peut-être moins pesé qu'à l'habitude, qu'à l'accoutumée, pardon, sur cette rencontre. Je pense qu'on aura un très 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 grand Antoine Dupont samedi face au box.
Ouais, ce qui est certain, c'est qu'il va livrer un énorme duel avec Faf de Klerk. Ça va être un des duels passionnants à suivre. Vous attendez quoi d'ailleurs comme face-à-face ? Est-ce qu'il y a des face-à-face comme ça qui vous font saliver ? Il va y avoir Colby d'un côté. Et puis
avec Penaud en face.
Moi, il me tarde de voir un peu le match d'Eben Etzebeth. Voilà. Parce qu'il a quand même été critiqué quand il était en France. Là. Et il a retrouvé quand même quelques couleurs et du poil de la bête. Déjà sur la fin avec Toulon la saison dernière et puis avec l'Afrique du Sud. Donc, il me tarde de voir un peu l'impact qu'il aura sur cette équipe sud-africaine. Voilà, moi, pour avoir joué l'Afrique du Sud, à l'époque, il y avait un certain Bakis Botha qui serrait les rangs. Et on lui mettait un point rouge dessus, mais ça ne suffisait pas quand même parce qu'il revenait toujours même la tête en sang. Et je pense que Eben Etzebeth, il va falloir aussi s'en occuper, ça va être un client. Mais après, oui, pour parler de Faf de Klerk, je pense qu'il va être là vraiment pour essayer de faire sortir Antoine Dupont de son match, parce que c'est un bon numéro 9 aussi, c'est un bon ratier. Mais bon, je pense qu'Antoine, il est imperméable à tout ça, donc il va rester calme. Mais je pense qu'il va y avoir quelques images sympas à regarder.
Est-ce qu'on réfléchit à deux fois quand ça s'agace et qu'il y a Bakis Botha en face, Emmanuel ? C'est curieux de savoir.
Ben on s'agace. Moi, je me souviens, on les a joués un peu dans la même configuration. C'était en 2009 à Toulouse, quand ils étaient champions. En 2009,
oui. Oui, tout à fait.
À Toulouse, à la tournée de novembre, voilà, ils étaient champions du monde en titre aussi. Et bon, on avait un bon paquet d'avant quand même. Donc,
c'est ce que j'allais dire, vous les aviez concassés. Hein, surprise à tout le monde.
Ils étaient plusieurs à être sortis avant même la mi-temps, je crois.
De Bakis Botha, oui. Donc Bakis Botha, ben, on s'en occupe un peu en début de match quand même. Donc à un moment donné, il a la gueule en sang. Puis, il est ouvert au cuir chevelu. Et avant de sortir, quand même, il se place devant nous, là, devant le paquet d'avant, comme ça, la gueule en sang, avec un grand sourire, et il nous fait un bisou comme ça. Genre il nous dit à tout à l'heure. J'en veux encore, quoi. Donc là, tu te dis, ah là, ça va piquer quand même. Et effectivement, quand il est revenu, là, il est rentré dans des recs, dans des ballons portés, dans les genoux, là. Ça a piqué. J'avais laissé un petit latéral, d'ailleurs, un petit latéral interne. Merci, Bakiz. Mais non, après, voilà, ça faisait partie du jeu, mais on savait que c'était quand même viril, très viril. Mais
tu sais qu'Imanol donc, a battu les Sud-Africains en Afrique du Sud aussi. Hein. Il a battu à Marseille, à Toulouse.
Ouais, ça, c'est un bon souvenir, ça. C'était au Cap. C'était un gros challenge. On avait joué à la Roumanie juste la semaine d'avant.
Une bonne prépa.
Donc ouais, on n'était pas très prêts. Et ça, c'est surtout le match où Damien Trave avait joué numéro 10.
C'est ce que j'allais dire. J'attendais ça. C'est la grande idée de Bernard Laporte.
Il avait fait un match terrible. Certainement peut-être son meilleur match en équipe de France. Je sais pas. Il faudrait lui poser la question. Mais ouais, ça reste un beau souvenir parce qu'il y a gagné l'Afrique du Sud. C'est pas tous les jours.
Ben oui.
Pour revenir à celle actuelle et sur Eben Etzebeth, je voulais répondre à Emmanuel que les critiques étaient quand même justifiées sur Etzebeth. Il a fait quand même.
J'ai pas dit le contraire, mais j'attends de voir un peu. Je pense qu'il a gardé dans un coin de sa tête. Donc, je pense qu'il va avoir envie de montrer à tout le monde que bon.
C'est vrai qu'il va pas laisser un souvenir impérissable.
Est-ce qu'il va envoyer des bisous?
Non, il n'envoie pas de bisous, mais j'ai vu que là, avec l'équipe sud-africaine, quand même, il marquait le territoire dernièrement. Donc, on va voir si. Mais je pense qu'on est largement armé pour ça et on est quand même très, très solidaire, notamment au niveau du paquet d'avant. Donc, je pense qu'il va avoir de quoi faire.
Bon, après, pour en terminer avec ce match, quand même, on parle beaucoup des avants, mais il y a aussi du talent derrière hein, dans cette équipe sud-africaine. Pas juste les limiter à ce paquet d'avant colossal.
Alors, ils ont quelques absents. Ils ont un ouvreur qui est ouvreur de formation, mais qui ne jouait plus ouvreur depuis longtemps. Je parle à Willem C, leur Willem C à eux. Mmh. Ils en sont réduits quand même, Olivier, à mettre Chelsea Colby buteur. Et Colby, c'est surtout un buteur de dépannage. Ce n'est pas un buteur régulier. Je pense que et je suis bien moins talentueux que Fabien Galthié, mais je pense que c'est là où il y a des choses à quand il dit à Arnaud ce matin, on va tirer les premiers. Je pense qu'il a vu des failles ou des lacunes et que possiblement il va faire quelque chose au niveau stratégique avec ses trois quarts sud-africains.
D'accord. Bon, ben je vois qu'il y a un coup à jouer alors que l'équipe de France a de belles choses à réaliser.
Heureusement, on est en France.
Est-ce qu'on est favori? Tiens, dernière question. Est-ce que selon vous? Est-ce qu'on peut dire qu'on est favori face aux champions du monde?
Moi, je dirais que oui. Hein. Les Sud-Af, ils viennent de perdre en Irlande. L'équipe de France vient de battre l'Australie. 11 succès de rang. C'est à Marseille, dans un chaudron, comme dirait Emmanuel. Moi, je pense que maintenant, il faut assumer le statut de favori. Enfin, je veux dire, ils vont l'avoir jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, autant l'assumer dès aujourd'hui face à l'Afrique du Sud, quand bien même cette équipe est championne du monde en titre.
Imanol, le mot de la fin.
Par rapport à la prestation des Français le week-end dernier, du coup, moi, je dirais 50-50 quand même. Voilà, j'attends après la réaction. Pour moi, si l'équipe de France monte le curseur, ils sont favoris. Mais s'ils restent sur le curseur du week-end dernier, ça va être 50-50. Mais bon, oui, je vais rejoindre Arnaud. Je pense qu'on est quand même favoris. Il y a des joueurs qui vont monter en puissance, qui ont retrouvé du rythme. Quand je vois déjà le match qu'a fait Cyril Bailly alors qu'il n'avait pas joué beaucoup, il a quand même fait un sacré match.
Il est incroyable.
Dans l'intensité, dans l'activité. Donc voilà, il y a des joueurs, Romain Tamac, c'est pareil, je pense qu'il va retrouver du rythme, il avait besoin de se remettre en jambes. Antoine Dupont, c'est pareil, il aime ce genre de défi. Ouais, il y a plein de joueurs qui vont monter le curseur, donc ça va être un beau match.
Bon, bah écoute, on aura la réponse samedi soir au Stade Vélodrome de Marseille et puis on débriefe tout ça la semaine prochaine dans un nouveau numéro d'Arrêt Buffet. D'accord les gars? J'ai pris toutes les notes, hein, j'ai gardé les bandes, hein, attention, hein. On va voir.
T'as gardé les pronoms, c'est bon?
Ouais, c'est bon. Attention, on est favoris, j'ai retenu. Allez, salut.
Salut, merci.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.